évidemment que nous reviendrons sur ce sujet avec David Ossilou. En attendant, place à l'info, Camille Parsi, bonjour.
Bonjour Isabelle et bonjour à tous.
Vous nous parlez environnement pour débuter ce journal. Zoom ce matin sur les CRS.
Trois lettres pour désigner les combustibles solides de récupération. Deux usines de production doivent voir le jour prochainement en Corse, dont le centre de Monté. Sa mise en service est prévue dans un an. Mais qu'en est-il de la création de chaufferies pour transformer ces combustibles en chauffage ou en électricité? Les prises de parole politiques restent rares et de leur côté, collectifs et associations s'inquiètent. Clémence Gourdon-Négrini.
Pour Jean-Dominique Ventourine du collectif Pia Diadigol, où l'usine de Monté n'est que la première pierre vers l'implantation de chaufferies CSR en Corse.
Cette usine ne sert que à valider le plan déchets qui prévoit logiquement deux incinérateurs, un sur Bastia et un sur Ajaccio.
Rien d'officiel, répond le conseiller exécutif et président de l'Office de l'environnement, Guy Armanet, mais il confirme pour la première fois la volonté politique d'implanter une unité biomasse de valorisation bois et CSR. Une chaufferie donc, à condition qu'elle soit dans le giron public. Les opposants dénoncent un message brouillé.
Il y a un flou qui est maintenu de manière volontaire, parce qu'on sait très bien que ce genre de projet va aussi changer l'image de la Corse, de nature, de préservation de l'environnement, avec des unités qui sont quand même extrêmement polluantes.
CSR présenté comme des combustibles verts. Ça fait rire Jaune, le spécialiste des déchets, Gilles Vandernotte.
C'est un peu comique, si ce n'est tragique.
Également membre de l'association Aspiriat, il dénombre énormément de rejets polluants.
Toutes sortes de produits chimiques, des métaux lourds, des acides divers, des dioxines, des furanes, qui sont donc des produits extrêmement toxiques.
S'ajoutent les réfiums, qui en sont le condensé, les mâchefers et les particules ultra fines, tous documentés par les spécialistes comme présentant de hauts risques pour la santé et l'environnement.
Les combustibles solides de récupération, les CSR, à ne pas confondre, Camille, vous l'avez rectifié vous-même avec les CRS.
Exactement Isabelle, et on y reviendra d'ailleurs avec notre invitée de la rédaction à 7h45, Marie Picmal. Elle est journaliste à Libération, elle y signe une enquête intitulée « Incinérateur de plastique, la fabrique d'une fable écologique ». Et on en parle aussi dans les prochains jours, puisque demain, devant le tribunal administratif de Bastia, sera examiné le recours contre la construction du centre de Monté. La justice toujours et la fin des interrogatoires au procès en appel du double assassinat de l'aéroport de Porrette. C'était en 2017 à la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Joseph Mencogne et François Marchionni étaient à la barrière et l'enjeu était conséquent. D'un côté, l'accusation veut confirmer les rôles attribués à chacun des 11 accusés restants. Le dossier en comptait 15 en première instance. De l'autre, les accusés veulent s'en tirer avec une peine de prison minorée, voire un acquittement. Et cette année, Olivier Castel, les avocats de la défense ont pu préparer leurs stratégies respectives.
Et ils se réjouissent que les débats aient pu avoir lieu, car en première instance, la grève des surveillants pénitentiaires, suite à l'évasion sanglante de Mohamed Amara, avait largement perturbé les audiences. Question donc, le ministère public requerra-t-il à la hauteur du verdict de 2024? 30 ans de réclusion pour Christophe Guazzelli, 25 ans pour son frère Richard, comme pour Christophe Andréani, Abdelhafid Bekouche et Ange-Marie Miguelozzi. Ces 5 peines, les plus lourdes, seront-elles réduites? En tout cas, les accusés ont tous reconnu une partie des faits. Le premier s'accusant même d'emblée d'avoir tué Jean-Luc Codaccioni et Antoine Chilichini. Mais par exemple, 10 ans avaient été infligés à Jacques Mariani pour association de malfaiteurs en récidive. Et celui-ci joue gros, détenu depuis presque 25 ans sous différents régimes. Une confirmation le maintiendrait derrière les barreaux. Un acquittement lui permettrait d'espérer sortir en septembre 2027, voire avant. Joseph Mencogne, lui, au contraire, voudrait la confirmation, celle de son acquittement. Même topo pour François Marchionni, deux sexagénaires qui assurent tant qu'ils peuvent qu'ils ont laissé derrière eux leur passé de repris de justice.
Et début ce jeudi des réquisitions des avocates générales. Le verdict est attendu le 3 juillet. Toujours au chapitre judiciaire, à Bastia, un homme blessé par balle hier soir. L'information a été révélée par nos confrères de Corse Matin. Ils indiquent que les faits se sont déroulés aux alentours de 22h dans le quartier de Paesenovre. La victime est âgée d'une trentaine d'années. Une enquête a été ouverte pour violence et volontaires avec armes par le parquet de Bastia. On poursuit avec la politique et le dossier autonomie qui devrait s'inviter dans les discussions à l'Assemblée de Corse. Première session de l'été aujourd'hui et jusqu'à demain. Session a priori sans dossier majeur, mais aucun doute, Patrick Vinciguerra, les conseillers territoriaux reviendront sur l'adoption du projet de loi constitutionnel.
D'autant que le conseil exécutif dans son ensemble, la présidente de l'Assemblée mais aussi des élus de chaque groupe ont assisté la semaine dernière à l'examen du projet et avant-hier au vote solennel. Gilles Giovannangeli, le président de l'exécutif, et Gilles Séméoni, qui a en charge le dossier de l'autonomie, devraient livrer leurs sentiments sur cette première étape franchie et évoquer le chemin restant à parcourir. Un débat pourrait s'installer dans l'hémicycle sur le contenu du texte in fine adopté par les députés, satisfaisant ou pas. Pour le reste, la session débute ce matin par les traditionnelles questions orales. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il sera notamment beaucoup question de transport, de la rénovation du pont d'Ascq en Balagne à la rénovation de 12 rames des chemins de fer. À l'ordre du jour également, le compte financier unique de la CDC pour l'année 2025. L'évolution de la dette sera sans doute scrutée.
Patrick Vinciguerra pour ses précisions. Dans le reste de l'actualité, la réouverture du pont de Saint-Florent. C'est officiel, vous pouvez à nouveau l'emprunter depuis hier. Un tout nouveau pont pour remplacer l'ancien effondré dans les intempéries de Noël dernier. Coût total des travaux, plus de 3 millions d'euros. Un soulagement aussi pour les habitants après 6 mois d'attente et la crainte d'un retard de livraison désormais balayé. On écoute Paul Mathieu Costa, le premier adjoint au maire de Saint-Florent.
Les craintes, on les avait sur les délais à cause peut-être du mauvais temps, des orages ou autre chose. Mais une des chances principales, c'est que tout le matériel a été construit en Corse. Donc la crainte, en fait, le mois de juin à Saint-Florent, ça n'a jamais été mai-juin, ça n'a jamais cassé la baraque. Mais il y a eu une fréquentation avec les touristes. Le seul gros problème pour nous, c'était le transport des enfants au tout début, depuis le mois de mai, à la reprise des classes. Ce qui nous intéressait, c'était de façon surtout que l'écart des touristes et puis les gens puisse se passer. La saison, là, elle va battre son plein, maintenant, puisque la circulation, elle sera rétablie, en sachant que fin octobre, ils vont reprendre pour les finitions, pour les petits trucs qu'il y a, les barrières de sécurité, le passage piéton et tout. Ça va être fait, mais on peut leur faire confiance. La preuve, elle est là. Ça devait être livré le 27. C'est livré avec 2 ou 3 jours d'avance.
Et la finalisation des travaux est prévue à l'automne prochain. Enfin, un nouveau record de battu hier mercredi, journée la plus chaude jamais enregistrée depuis les débuts des relevés en France. Température moyenne qui a dépassé pour la première fois les 30 degrés. Et chez nous, vigilance orange maintenue à minima pour toute la journée.